Chapitre 23. William Dean Howells les accompagna à Hartford ce jeudi, sans que Holmes comprenne bien pourquoi, puisqu'il supposait que Howells avait une journée de travail bien remplie à New York. La morosité de la campagne qui défilait par la vitre du train n'avait d'égal que celle de la conversation. Au cours de ce seul trajet, Sherlock Holmes en apprit plus sur le métier d'écrivain et d'éditeur qu'il n'en aurait jamais l'utilité. Clemens et un James pourtant peu bavard en général exprimèrent des vues concordantes, tandis que Howells se contentait d'écouter et que Holmes tentait de faire un somme.
« L'édition change rapidement, et pas pour le mieux !»
remarquait Clemens.
« Je suis bien d'accord, » acquiesça James.
« Les revues réclament des histoires d'un genre nouveau, si tant est qu'elles s'intéressent encore aux histoires !»«
Je ne saurais mieux dire, » convint James. « Les ventes de mes nouvelles ont chuté. » Un nouvelliste n'est plus en mesure de gagner sa vie.
Et les romans par souscription, qui à une époque constituaient mon gagne-pain et celui de ma maison d'édition, sont en train de disparaître.
Trop vrai, monsieur Clemens.
Dès lors, où allons-nous puiser nos revenus ?
S'interrogea Clemens entre deux bouffées de son havane.
Même les romans feuilletons se font rares dans les magazines.
Très difficile à placer, très difficile, murmura James.
Henri, intervint Howells, ses yeux fatigués s'animant. « Vous souvenez-vous d'il y a environ 9 ans, c'était, je crois, au début de l'année 1884, mon roman « The Rise of Silas la femme » est paru en feuilleton dans le Century en même temps que vos bostoniennes.
J'étais profondément honoré que mon modeste livre de jeunesse partage le même espace que votre chef-d'œuvre. »
William Dean Howells hocha la tête, goûtant le compliment. Holmes remarqua un changement subtil, voire presque imperceptible, sur les traits de Henry James. L'expression, disparue aussi vite qu'elle était venue, lui évoqua celle d'une petite fille bien élevée sur le point de se livrer à quelque espièglerie.
« Monsieur Clemens, » reprit James, « avez-vous par hasard déjà lu les Bostoniennes ?»
Clemens, d'ordinaire sûr de lui, eut l'air étrangement gêné.
« Ah, non, monsieur James, je n'ai pas encore eu ce plaisir. »
« Je pose la question, »
reprit James d'une voix onctueuse avec plus que l'ombre d'un sourire,
« parce qu'un ami anglais m'a raconté qu'il avait participé à un banquet à Boston à cette époque, en 1884 me semble-t-il, durant lequel vous avez proféré à la tribune, et je crois vous citer fidèlement, « je préférerais être condamné au paradis de John Bunyan plutôt que de lire les Bostoniennes. »
Holmes fut étonné par cet assaut frontal. Même s'il connaissait Henry James depuis seulement peu de temps, il avait eu le loisir de l'observer. Or, tout, dans l'attitude de l'écrivain, suggérait qu'il éviterait la controverse à n'importe quel prix et que, sommé de réagir, il le ferait par touches subtiles et teintées d'ironie. Or, voilà qu'il attaquait Clemens comme l'amiral Nelson les flottes françaises et espagnoles, enfonçant droit dessus. Samuel Clemens Mark Twain paraissait tout aussi stupéfait. Son visage, animé par des froncements de sourcils dramatiques, des expressions de surprise ou de joie exagérées dans tous les autres échanges dont Holmes avait été témoin, affichait à présent la mine consternée et honteuse du gamin de 11 ans pris la main dans le pot de confiture. Bégaya Clemens, les joues et le nez semblant tout près de s'embraser sous l'explosion de ses capillaires.
Je ne voulais sûrement pas des tribunes, des banquets. »
Les deux derniers mots furent lancés sur un ton dégoûté, puis Clemens agita la main comme pour chasser une odeur nauséabonde. Il s'efforça d'allumer un nouveau cigare, se penchant pour concentrer toute son énergie sur le geste, alors que les deux tiers d'un premier se consumaient encore dans le cendrier. En voyant les traits figés et pâles de William Dean Howells, Holmes devina que c'était lui qui avait rapporté l'insulte à James une décennie plus tôt. James laissa encore passer quelques délicieuses secondes de ce pesant silence avant de dire
« Mais de nombreux lecteurs, que j'ai rejoints maintenant qu'assez de temps s'est écoulé, étaient d'accord avec vous concernant les défauts des Bostoniennes. Et je suis pleinement d'accord avec vous pour reconnaître qu'il n'y aurait pas pire enfer que d'être condamné au paradis de John Bunyan. »
Le silence se fit pendant un moment. Clemens tenait son cigare, James et Howells fumaient leurs cigarettes, et Holmes tirait sur sa pipe. Les quatre hommes s'observaient, tendus, à travers un nuage de fumée bleue.
« Henri, »
déclara Howells après s'être raclé la gorge,
«
Vous vous êtes diversifié, comme disent les hommes d'affaires, dans le théâtre, n'est-ce pas ? James hocha modestement la tête.
Il y a 3 ans, à la demande de Monsieur Edward Compton, j'ai adapté mon roman « L'Américain » pour la scène. Il ne convenait pas vraiment à une dramatisation, mais le fait d'écrire et de réviser la pièce m'a fourni une précieuse expérience théâtrale.
« A-t-elle été montée ?» s'enquit Clemens.
« Oui, et avec un certain succès, d'abord en province et ensuite à Londres. Ma prochaine pièce sera une création originale et pas une adaptation. Pour être franc, à certains égards, j'ai l'impression d'avoir enfin trouvé ma vraie forme d'expression. Je trouve l'écriture dramatique et l'importance qu'elle donne à la scène plus intéressante que le roman ou la nouvelle. Pas vous ?»
Clemens grommela.
Oh, « J'ai adapté mon livre, L'âge doré, en une pièce que la plupart des gens connaissent sous le titre Colonel Sellers, depuis que John T. Raymond en a incarné le personnage. Connaissez-vous Raymond, Monsieur James ?»«
Je ne l'ai jamais rencontré, ni vu sur scène. » »«
Un parfait Colonel Sellers. C'était pendant la présidence de Grant. Le président a assisté à une représentation à New York, et des amis m'ont dit qu'on l'entendait rire jusque dans les derniers rangs du balcon. »
« C'était donc une comédie ?» demanda James.
« En partie, c'est du moins ce qu'en a fait John T. Raymond. J'aurais apprécié qu'il joue la fameuse scène des navets dans l'esprit où je l'avais écrite, en faisant ressortir la dimension tragique de la pauvreté. Mais je n'ai pas à me plaindre. Colonel Sellers m'a rapporté $10,000 au cours des 3 premiers mois, et j'imagine qu'il me fera gagner 75 ou 100 000 dollars avant que lui, ou moi, ou nous deux, mourions de notre belle mort. »
Il y eut un autre silence entre les 4 hommes, pendant que la vulgarité de la remarque se dissipait lentement avec la fumée du cigare, des cigarettes et de la pipe. Holmes soumettait Samuel Clemens à un examen des plus attentifs. Son travail consistait autant à analyser les gens qu'à interpréter les indices. Savoir percer à jour une personnalité et la véracité de ses affirmations en apprenait plus au détective que l'inspection d'empreintes de pas ou de cendres de cigarettes. Clemens V. Holmes utilisait la vulgarité comme un dispositif, non seulement pour choquer son public, et les gens qui l'entouraient constituaient toujours un public, mais pour dépasser cette indignation et atteindre un degré supérieur d'humour ou de farce. Degré supérieur aux yeux de Clemens, du moins. Comme s'il lisait dans les pensées de Holmes, Clemens retira le cigare de sa bouche et se pencha vers l'intérieur du cercle des 4 hommes.
« Et vous, Monsieur James ?» Que pensez-vous des auteurs qui cherchent fortune en écrivant pour de simples comédiens ?
James sourit.
Des amis à moi assureraient que cet argent est sale.
Bon sang, il l'est !
S'exclama Clemens en abattant sa main sur son genou. Toute la gêne et la culpabilité du petit garçon avaient disparu, remplacées par un enthousiasme juvénile. Hartford était une ville sinistre, tout entière dédiée à une seule activité. Il y avait des compagnies d'assurance à chaque coin de rue et aucune architecture municipale digne du moindre intérêt. Quand le brougham transportant les 4 hommes s'engagea dans Farmington Avenue, Holmes et James virent cependant la beauté de Nook Farm, l'ancien quartier de Mark Twain. Les grandes maisons étaient toutes différentes, comme si leurs architectes avaient eu à cœur de respecter les rêves et les désirs de leurs clients. Chacune disposait de plusieurs hectares de terrain, et si des grilles de fer séparaient certaines de l'avenue pavée à la douce courbure, les plus grandes propriétés semblaient partager des forêts et des clairières non clôturées.
« Vous voyez ce belvédère ?»
demanda Clemens, montrant du doigt une petite construction au milieu des arbres entre 2 élégantes demeures.
« Harriet Beecher Stowe et moi le partagions, puisqu'il est situé pile sur la frontière invisible entre nos 2 propriétés. » Nous nous retrouvions souvent ici tous les 2, par de belles journées d'été ou de vifs matins d'automne, pour échanger des nouvelles et discuter de l'inévitable déclin de la civilisation occidentale.
Est-elle toujours en vie ? Demanda Holmes.
La case de l'oncle Tom se jouait au théâtre à Londres depuis des décennies.
Oh oui,
répondit Clemens.
Elle a presque 82 ans, je crois, et demeure aussi digne et entêtée que jamais. La petite dame dont le livre a déclenché une grande guerre, comme a dit le président Lincoln, lors de leur première rencontre.
Le brougham s'arrêta le temps de laisser passer 2 lents tombereaux de maçons.
Certains soirs, poursuivit Clemens, quand je n'arrivais pas à dormir, j'allais m'asseoir sur la rambarde du belvédère pour fumer en admirant les étoiles ou le clair de lune. Madame Stowe était souvent déjà là. nous parlions presque jusqu'à l'aube, tels deux joyeux insomniaques.
On ne peut que se demander de quoi parlaient deux auteurs aussi accomplis que différents. De la nature du mal, du passé et de l'avenir des Noirs en Amérique, de littérature et de dramaturgie.
Nous parlions avant tout de nos maux,
répondit Clemens en retirant le cigare de sa bouche.
Surtout avant la mort de Monsieur Stowe, en 1886. Elle me détaillait les siens et je lui annonçais les miens.
Holmes vit Howells sourire. Apparemment, ils étaient sur le point d'entendre une des fameuses histoires de Sam Clemens alors qu'ils attendaient toujours que les tombereaux passent en brinque-ballant.
Je me souviens d'une nuit où elle a énuméré toutes les douleurs dont elle souffrait, sûre qu'elles annonçaient sa mort prochaine. Cette adorable femme était presque aussi hypochondriaque que moi. Et j'ai été surpris de constater que j'avais récemment présenté les mêmes symptômes. Des symptômes dont je venais d'être guéri.
Holmes croisa les bras. Les chariots étaient passés et leur brougham tourna dans une allée pavée qui montait en serpentant une douce colline.
Je lui ai dit, Harriet, mon médecin m'a soigné pour ces mêmes affections, exactement les mêmes. Quel médicament vous a-t-il prescrit, m'a demandé Madame Stowe. Eh bien, aucun médicament. Mon médecin m'a seulement ordonné de m'abstenir pendant 2 mois de boire comme un trou, de fumer sans discontinuer et de pousser des bordées de jurons à intervalles réguliers mais fréquents. Harriet, ai-je conclu, cessez donc de boire, de fumer et de jurer pendant 2 mois, et vous vous porterez comme un charme.
Clemens les scruta à travers la fumée, s'assurant qu'il avait encore toute leur attention.
Monsieur Clemens, s'est-elle exclamée, je ne me suis jamais adonné à de telles pratiques. Jamais, ai-je demandé. Et je peux vous assurer, messieurs, que j'étais stupéfait. Jamais, m'a répondu Harriet Beecher Stowe en resserrant son châle autour d'elle parce que la nuit était glaciale. « Dans ce cas, ma chère amie, ai-je répliqué avec une infinie tristesse, il n'y a plus d'espoir pour vous. Vous êtes comme une montgolfière en train de tomber et vous n'avez plus de lest à jeter par-dessus bord. Vous avez négligé vos vices. »
Le brougham s'arrêta en haut d'une côte et l'ancienne maison de Samuel Clemens apparut. Même s'il en était encore le propriétaire, Livy et lui la louaient depuis 2 ans à un certain John Day et sa femme Alice pour $200 mensuels dont les Clemens avaient bien besoin. Il expliqua qu'il avait envoyé un câble au Day pour les prévenir et que John et Alice seraient absents cet après-midi. Ils auraient donc la maison pour eux seuls. Une fois descendu de voiture, Holmes regarda la villa. Les rayons du soleil créaient un riche mélange d'ombre et de couleurs sur les 2 étages de briques saumon. Les pignons pointus et les 5 balcons donnaient à la grande maison des allures de château. Une haute tour percée de fenêtres surplombait la porte cochère. Clemens surprit le regard du détective.
« Certains ont écrit, ou dit, que je voulais que cette partie ressemble au poste de pilotage d'un bateau fluvial, »
déclara-t-il, écrasant son cigare par terre.
« Mais c'est faux. Ce n'était pas du tout l'idée. C'est ce qu'on appelle une heureuse coïncidence. »
Clemens sortit une clé d'un pot de fleurs sur le perron, déverrouilla la porte et les fit entrer. Holmes constata tout de suite que le bon goût et les objets de qualité régnaient ici en maître. Sa garçonnière du 221B Baker Street avait beau être un capharnaüm, quand Madame Hudson n'intervenait pas pour ranger tout ce qu'il laissait traîner ici et là, il savait apprécier un plaisant ordre domestique.
« 19 chambres, 7 salles de bain »,
expliquait Clemens comme un agent immobilier décidé à leur vendre le bien.
Toutes les salles de bain ont des WC avec chasse d'eau, jadis une curiosité. Des tuyaux acoustiques permettent de se parler d'un étage à l'autre. Dans ce petit salon, entrez, messieurs. Vous voyez le premier téléphone de Hartford dans sa petite alcôve. Comme j'ai été parmi les premiers à faire installer l'infernal appareil, j'avais bien peu d'interlocuteurs téléphoniques. Voici le salon de réception. Les motifs au pochoir sur les murs sont signés Lockwood de Forest.
« Un associé de l'entreprise créée par Monsieur Tiffany », précisa Howells.
« C'est dans ce petit jardin d'hiver que mes filles montaient leur spectacle »,
poursuivit Clemens, montrant un coin rempli de plantes.
« Les rideaux peuvent être tirés comme dans un théâtre. »
Il s'interrompit, puis parut regarder le salon et découvrir les pièces adjacentes pour la première fois.
« C'est bizarre. » Avant de partir à l'étranger, Livy et moi avons fait mettre tout le mobilier, les tapis, les vases, les lits et les bibelots au garde-meubles. Mais quand John et Alice ont loué la maison, plutôt que de contraindre un jeune couple à meubler un si vaste espace, nous avons fait réinstaller toutes nos affaires, pour une petite somme supplémentaire, mais...
Clemens entra dans la bibliothèque, puis revint dans le salon. Au-dessus de la grande cheminée sculptée, face à eux, une fenêtre donnait sur le jardin.
C'était mon idée. Quoi de plus agréable que de s'asseoir en famille un jour d'hiver et de regarder la neige tomber juste au-dessus d'un feu crépitant.
Il effleura les petits objets posés sur la cheminée et sur les bibliothèques de part et d'autre.
John et Alice ont tout placé exactement comme nous l'avions fait. Chaque vase et chaque tapis que Livy et moi avions acheté lors de nos premiers voyages. Tous les bibelots que les enfants adoraient. Voyez-vous, tous les samedis, Suzy, Jean et Clara réclamaient une histoire où apparaissaient les objets et tableaux qui se trouvaient sur les étagères et la cheminée. À un bout, il y avait une peinture à l'huile encadrée représentant une tête de chat, et à l'autre, une aquarelle impressionniste du visage d'une jolie jeune fille, intitulée Emlyn. Entre les deux, une douzaine d'objets divers. Oh, et aussi une toile d'Eliu Véder, tête de méduse. Mes petites filles exigeaient donc de moi que j'invente une histoire, au débotté, aucun moment de préparation permis, dans laquelle je devais intégrer tout ce bric-à-brac et les trois tableaux. Je devais toujours commencer par le chat et finir avec Emlyn, et interdiction de faire entrer un objet dans l'histoire qui ne soit pas à sa place dans la procession. Ces bibelots n'avaient pas droit à un jour de tranquillité, un jour de repos, un sabbat bien mérité. Aucun moment de paix, aucun répit dans leur vie. Rien que de la violence et des effusions de sang. Au fil du temps, ils ont montré des signes d'usure. Ils avaient vécu de telles aventures durant leur carrière romanesque.
Un bon exercice pour un écrivain,
observa Howells avec un rire.
Il y avait souvent un cirque dans ces histoires,
reprit Clemens ignorant le commentaire. Il semblait avoir oublié la présence des autres dans la pièce.
Comme les filles adoraient les histoires de cirque, je m'étais souvent...
Il s'interrompit, l'air stupéfait, fit quelques pas chancelants et s'effondra plus qu'il ne s'assit dans un fauteuil fleuri.
« Sam ?» demanda Howells.
« Ça va !»
répondit-il, protégeant ses yeux de sa main comme pour cacher des larmes.
« C'est seulement que... voyez-vous... tout est à sa place !»
Les autres ne surent comment réagir.
J'avais promis à Livy que, même si je devais voir quelques vieux amis de Hartford pour les inciter à investir dans certaines de mes entreprises, je ne m'approcherais pas de la maison de Farmington Road. Mais dès que j'ai passé la porte, j'ai été saisi par un intense désir de voir ma famille entière réunie dans cette maison. Tout de suite. Et de ne plus jamais sortir de ce quartier de Nook Farm. De ne surtout jamais retourner en Europe.
Clemens baissa la tête et regarda autour de lui comme s'il était dans un rêve.
Tout est à sa place. Tous les objets que Livy et moi avons choisis, achetés, parfois après de longues discussions, que nous avons chéris dans ce qui m'apparaît maintenant comme notre jeunesse, quand les filles étaient bébés puis gamines.
Il se tourna et regarda droit dans les yeux Howells, puis James et enfin Holmes.
Tous les intérieurs que j'ai vus en Europe étaient tellement laids, vulgaires et repoussants, messieurs. Comparez cette hideur baroque au goût parfait de ce rez-de-chaussée, à ce rêve délicieux de couleurs harmonieuses, à l'atmosphère de paix qui s'en dégage, de sérénité et d'un profond contentement. C'est tout simplement le plus beau foyer qui ait jamais existé. C'est vrai qu'il est beau, Sam.
Approuva Howells. Clemens ne parut pas l'entendre.
Sous l'effet de quelques magies noires, j'avais oublié l'allure d'antan de notre maison,
ajouta-t-il tout bas, se parlant à lui-même. Il abattit ses paumes sur les bras du fauteuil en même temps qu'il plaquait ses chaussures vernies sur le sol.
Cet endroit, messieurs, m'apparaît si lumineux et si splendide, et je m'y sens si naturellement chez moi, que j'ai l'impression de m'être brusquement réveillé d'un cauchemar. C'est comme si je n'étais jamais parti. Comme s'il me suffisait de tourner la tête.
Il la tourna vers l'escalier.
Pour voir ma très chère Livy descendre de ses délicieux sommets, les enfants gambadant sur ses talons.
Il regarda une fois encore ses compagnons tour à tour.
Mais je sens au fond de moi que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera plus jamais.
Plus personne ne parla après ça. Clemens se passa de nouveau la main sur les yeux et se leva d'un bond.
À cette bêtise, conclut-il d'une voix dure. Montons à la salle de billard au deuxième étage où je conserve ma machine à écrire. Cet instrument du diable qui est le pivot de l'enquête criminelle de Monsieur Holmes.